Il est midi sur France Culture. Bonjour à tous. Et bienvenue dans cette heure et demie en notre compagnie. Dans un instant, ce sera la première partie de la Grande Table. Mais avant cela, les titres du journal de 12h30, présentés comme toute cette semaine par Ludovic Piétenu. Bonjour Ludovic.
Bonjour Caroline et bonjour à tous. Ce sera l'heure du premier bilan au lendemain de mobilisation contre la loi Travail. Plus de 200 000 personnes dans les rues dans tout le pays, 450 000 selon plusieurs organisations. Les membres du gouvernement déclarent ce matin les uns après les autres entendre les critiques. Vous écouterez Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'éducation nationale. Des débuts de correction du texte sont proposés, nous dira Annabelle Grelier. Manuel Valls annonce qu'il recevra les organisations de jeunesse demain matin. Nous irons à la rencontre de ces étudiants réunis en assemblée générale ce midi. Nous irons à l'université Paris 8 à Saint-Denis avec notre journaliste Anne Fauquemberg. Et pour commenter cette actualité, notre invité sera politique, le député socialiste des Hauts-de-Seine, Alexis Bachelet. Après l'état social du pays, l'état économique, l'Institut national de la statistique publie ce matin toute une série de données. On analysera ça avec Jean-Marc Chardon. On reviendra également sur la crise des migrants 3 jours après le sommet européen de Bruxelles. Nous reviendrons sur ce projet de texte concocté, vous le savez, avec la Turquie pour tenter de régler cette crise. Il reste une semaine de travail pour peaufiner cet accord. Et puis nous irons aussi à Londres où la chaîne d'information Sky News affirme ce midi être en possession d'un fichier trouvé sur une clé USB en Turquie auprès du chef de la police interne de l'État islamique. Il y a sur cette clé USB près de 22 000 noms des membres, ces djihadistes de plus de 50 pays. Caroline.
Eh bien, on vous retrouve dans une demi-heure.
À tout à l'heure.
Quant à nous, une rétrospective à Lyon à l'Institut Louis Lumière jusqu'au 12 avril, une sortie DVD de 2 films édités par Wildside, 9 films depuis hier en version restaurée à voir ou à revoir au cinéma, première partie autour de l'œuvre de celui qu'on appelait l'empereur du cinéma japonais, l'homme aux gants blancs, dont le nom signifiait en français le soleil et la lune du marais noir, mort en 1998, mais dont on peut voir ou revoir nombre de ses films grâce donc à toutes ces actualités. Akira Kurosawa est à l'honneur de cette première partie.
Je ne parle pas spécialement de la dégradation. Je dépeins les êtres humains tels qu'ils sont. En fait, ils ne font que répéter les mêmes horreurs, les mêmes erreurs, les mêmes actes sanguinaires et violents depuis la nuit des temps. Et on n'a pas encore compris qu'on doit arrêter la guerre, que pour le pouvoir, les hommes continuent à répandre le sang, à se battre. Et je me demande pour combien de temps. Pour combien de temps les êtres humains vont continuer à se comporter de cette manière absurde et à se contenter de cette situation? J'ai montré la réalité. La question est de savoir combien de temps elle va durer.
Bonjour Catherine Cadou.
Bonjour.
Vous avez été l'interprète d'Akira Kurosawa et la traductrice de ses films pendant quelques 20 ans. Vous l'avez très bien connu. Vous avez été quasiment de tous les tournages sur cette période des années 1980 jusqu'à sa mort. Vous avez aussi réalisé un documentaire sur Kurosawa, un documentaire intitulé Kurosawa, la voix. Difficile, tiens, à dire. Je ne l'avais pas encore dit à voix haute. Qu'on peut trouver en bonus sur le DVD du film Les 7 samouraïs. Bonjour à vous Pascal Alex Vincent.
Bonjour.
Ça va être plus facile, vous êtes cinéaste et vous enseignez l'histoire du cinéma japonais à l'université Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Vous connaissez particulièrement bien également ce cinéma de Kurosawa, Kurosawa dont on entendait la voix traduite bien sûr en 1985 dans cette archive INA de France Culture. Une archive qui dit quand même quelque chose qu'on pense souvent quand on pense à Kurosawa, qui dit la constante de son film ou de son œuvre, la violence humaine. On associe très volontairement et très souvent, peut-être même un peu trop facilement, Kurosawa à un cinéma de la guerre, à un cinéma de la violence, par opposition à Mizoguchi qui parle des femmes, par opposition à Ozu qui traiterait de la famille. Est-ce qu'on réduit son cinéma comme il le disait lui, je ne parle pas de la guerre en soi, je dépeins les êtres humains tels qu'ils sont et il se trouve que les hommes de tout temps se font la guerre. Ce serait peut-être là l'explication. Qu'en pensez-vous, Pascal Alex Vincent ?
Alors c'est vrai que c'est un cinéaste qu'on associe assez facilement à un univers très masculin et qui a en effet beaucoup filmé la violence, la guerre. Sans doute parce que son film le plus célèbre, Les Sept Samouraïs, parle de ça. Après, si on considère sa filmographie, il y a 30 films. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que sur les 30 films, il n'y en a que 10 qui sont des films en costume et des films de guerre. Ça veut dire qu'il y a une autre œuvre, peut-être moins connue et peut-être moins exposée. Mais le fait est que, en effet, Kurosawa n'a pas fait que des films en costume ou que des films dits de samouraïs. Il a aussi fait des polars, il a aussi fait des drames, il a aussi fait des films avec des moments comiques. Donc il ne faudrait pas réduire en effet Kurosawa à un simple cinéaste de l'action ou de la violence. Hein. Son œuvre est beaucoup plus large.
Et beaucoup plus diverse.
Et plus complexe, bien sûr.
Catherine Cadou.
Il a effectivement beaucoup parlé de la société de son époque, de films contemporains qui sont arrivés dans les pays étrangers, sont arrivés beaucoup plus tard. Il a été connu par Rashomon, puisque Rashomon, en 51, a eu le Lion d'or à Venise. C'est ça qui a été un coup de tonnerre dans le paysage du cinéma mondial, parce que tout d'un coup, on a vu un film japonais en costume. Effectivement, ensuite, les distributeurs ont préféré, et les Japonais eux-mêmes, ont préféré exporter ces films exotiques de Kurosawa, les films en costume, les films de guerre, effectivement, qui présentaient un Japon qui correspondait au monde des estampes. Le Japon que l'on connaissait par les estampes japonaises. Kurosawa, avant d'être cinéaste, avait voulu être peintre. Et son cinéma est quand même très pictural et il fait les compositions de ses films est très, très visuelles. Et c'était particulièrement frappant avec les films en costume. Donc c'est sur cela qu'on a apporté d'abord, mais il avait fait parallèlement, et tous ses films avant Rashomon et après, peignaient la société japonaise de son époque et étaient en plus universels, parce qu'il parlait de problèmes, par exemple, il y a un film plus célèbre de lui, c'est « Vivre ». Les fonctionnaires, le petit fonctionnaire japonais qui accumule les dossiers et qui ne les traite pas, tous les fonctionnaires du monde entier se sont retrouvé dans ce personnage. On parlait de la société japonaise et c'était souvent très, très prophétique. Par exemple, Vivre dans la peur, qui parle d'un accident nucléaire dans le Pacifique en 58, au Japon en 57. C'était la préfiguration des accidents nucléaires que l'on a vu récemment à Fukushima.
Oui, et c'était aussi sans doute la société japonaise post-nucléaire des années 40.
C'était vraiment une angoisse japonaise à cause de Hiroshima et Nagasaki, plus les événements de Bikini. Bikini, c'était donc en 57, et il a fait ce film. Il faisait des films qui étaient... il observait la société de son époque. Quelquefois, il transposait dans une autre époque qu'il aimait beaucoup. C'était l'époque des royaumes combattants. C'était ses fameux films en costume. Mais quelquefois, il prenait la réalité telle qu'elle était. Scandale est un film qui parle de la domination de la presse à Scandale. C'est des films très prophétiques et très, très contemporains.
Mais à vrai dire, quand j'entends, moi, cinéaste de la guerre et de la violence, je n'entends pas nécessairement film en costume. Vous avez répondu l'un et l'autre, d'ailleurs, par ces films en costume et cette dizaine, disiez-vous, Pascal Alex Vincent, de films en costume, donc qui parlent de guerre. J'entendais aussi justement films de son époque, en l'occurrence Rashomon 1951, mais L'Ange ivre qui vient de ressortir en DVD donc 48, des films des années 40 jusqu'aux années 60 ou 70 parlent précisément, Catherine Cadou, de l'époque, c'est-à-dire de la société japonaise post-guerre, c'est-à-dire de ce qui reste de cette société qui a échoué, qui a été vaincue et qui est traumatisée. Est-ce qu'on peut dire, ou reformuler de cette façon-là, Pascal Alex Vincent, que le cinéma de Kurosawa, c'est précisément ce cinéma d'une société traumatisée ou angoissée par ce qu'elle est devenue?
Mais on peut le constater dans la rétro et dans les films qui circulent actuellement. Il y a des films contemporains, enfin, qui se passent dans le Japon des années 50-60, comme Les Salauds dorment en paix ou Entre le ciel et l'enfer, hein, qui sont des films très urbains et qui dépeignent une société japonaise qui se pose des questions, une société japonaise, en effet, qui souffre, qui est en train de se redresser au lendemain de la guerre, mais à quel prix ? Une société japonaise que Kurosawa désigne souvent comme corrompue, et une société donc qui va certes devenir, au milieu des années 60, qui va faire du Japon un des pays asiatiques les plus puissants, alors que n'oublions pas qu'au lendemain de la guerre, le Japon est détruit, le Japon est à genoux, et en 20 ans, le Japon s'est redressé de manière extrêmement spectaculaire, mais tout ça a un prix, et le peuple japonais a certainement beaucoup souffert. Eh bien, Kurosawa, en effet, décrit la société japonaise des années 50-60 dans plusieurs de ses films, notamment certains qu'on peut voir actuellement.
L'Ange ivre, par exemple, donc 1948, qui est sur le monde des Yakuza, est un film qui parle du désarroi de ce Japon d'après-guerre à travers ses exclus, ses bidonvilles, ses marginaux, ses bas-fonds de Tokyo, Catherine Cadeau.
Absolument, il en parle aussi dans Dodeskaden,
il film parle de 1970.
De 1970, et comme par hasard, ce film n'a pas très très bien marché au Japon, alors que nous l'avons tous apprécié, beaucoup en France en particulier. Et il parle du Japon, du bidonville où tout est à refaire et où il montre c'est un ballet triste d'exclus de la société. Les Japonais n'ont pas du tout aimé ce portrait d'eux-mêmes que Kurosawa leur envoyait. Mais il y a des films aussi qui sont bourrés d'espoir. Enfin, c'est pas seulement.
Vous êtes d'accord avec ce que disait Pascal Alex Vincent, comme quoi Kurosawa n'est pas réductible à un genre, pas réductible non plus à une tonalité de film.
Absolument, absolument. Il y a des films, par exemple, Je ne regrette rien de ma jeunesse, qui parle du Japon de l'immédiate avant-guerre, mais en fait dans lequel Kurosawa exprime tout son espoir dans un Japon qui va sortir de ses ornières et c'est une histoire formidable et c'est un rare portrait de femme. Parce que c'est vrai que le cinéma de Kurosawa est un cinéma très masculin. Mais chaque fois, il me disait « Mais c'est pas juste, j'ai quand même fait des portraits de femmes formidables. » Et il citait souvent ce portrait de « Je ne regrette rien de ma jeunesse » où le Japon trouve un modèle de développement particulier, retour à la source, à la terre et se développe. Donc, c'était pas seulement la dégradation de l'être humain, il y avait aussi des personnages comme le fonctionnaire de vivre.
On y revient, c'est un film
formidable. On y revient souvent.
En effet.
Et puis, il y a Rêve, Rêve qui est un film où on parle, c'est un hymne à la vie et à la possibilité. L'être humain est d'une richesse infinie et on peut se rebondir toujours.
Vous parliez des femmes dans le cinéma de Kurosawa. Dans ce film qui a fait connaître Kurosawa en Europe et qui a peut-être été même l'entrée du cinéma japonais en Europe, je parle sous le contrôle de Pascal Alex Vincent, Rashomon,
je
donc,
confirme.
En 1951. Il y a une femme, mais on va l'écouter dans cet extrait.
ただ私を蔑んだ冷たい光だったのでやめてそんな目で私を見るのをやめて。
Rashomon, Lion d'or à la Mostra de Venise en 1951, Oscar du meilleur film étranger en 1952, si je ne m'abuse. On entendait là, Pascal Alex Vincent, la voix de Machiko Kiyo, qui n'est donc pas Toshiro Mifune, l'acteur fétiche de Kurosawa avec qui il a tourné 16 films, actrice encore vivante.
Mais oui, Machiko Kiyo, quelle émotion d'entendre sa voix, comme on vient de le faire actuellement, sa voix dans Rashomon, hein, ça paraît si lointain, mais pourtant Machiko Kiyo, elle est toujours parmi nous, elle a 91 ans, c'est un peu une légende. C'est aussi la première actrice, une des premières actrices à avoir tenté une carrière à Hollywood. Elle a joué face à Marlon Brando, hein, puisque l'exposition internationale de Rashomon lui a permis, voilà, de faire une grande carrière. Mais c'est aussi parce que c'est une très belle et une très grande actrice. Et c'est sa voix qu'on vient d'entendre et c'est toujours émouvant puisque elle est encore parmi nous.
Voilà. On dit avec Rashomon que Kurosawa a révolutionné l'art du récit cinématographique. Est-ce que vous êtes d'accord déjà et en quel sens, Catherine Cadou?
Il a effectivement coupé la linéarité du récit, c'est-à-dire qu'on ne faisait plus un récit chronologique, c'était un récit éclaté entre quatre personnages.
Plusieurs points de vue sur un même crime, avec des flashbacks.
Et on ne savait pas où était la vérité, c'était la révolution dans le cinéma mondial. Angelopoulos, Iñárritu a dit que ça l'a beaucoup inspiré, qu'il avait trouvé enfin une forme cinématographique qui lui plaisait. Ça correspondait aux formes de récit des écrivains de l'Amérique latine. Et Kurosawa l'a fait, c'était très japonais et en même temps très universel. Et Kurosawa disait souvent, plus on est japonais, plus on est universel. Qu'est-ce que ça voulait dire? C'était pas parler japonais, c'était de creuser au fond de l'être humain. Et là, on a un substrat, on est tous humains et on se correspond. Donc il avait inventé l'art du récit à la... Américo-latino dans Rashomon, mais c'était lui, il avait inventé tout seul, il a fait 4 points de vue sur un meurtre, 5 points de vue, il a fait intervenir même le mort sous forme d'un fantôme, ça c'était possible à cause du Japon.
Facile avec Vincent.
Mais oui, et puis ce qui est absolument fascinant avec Rashomon, c'est que c'est un film qui vraiment a fait entrer le cinéma dans une certaine modernité. C'est-à-dire qu'à la fois, Rashomon emprunte beaucoup au cinéma muet, dont Kurosawa était un grand admirateur, mais aussi joue certes avec les codes du récit, mais aussi un montage et une dynamique absolument incroyable. Hein. Il faut vraiment se mettre à la place des spectateurs qui ont découvert le film à Venise en septembre 51 et le montage très cut du film, la brutalité mais aussi la sensualité de ces acteurs transpirant dans la jungle, les mouvements de caméra et puis cette façon incroyable, ça avait beaucoup surpris à l'époque de filmer le soleil de face, c'est a priori quelque chose d'interdit dans le cinéma. Et là, le Miyagawa, le grand chef opérateur qui a travaillé pour Mizoguchi, filme le soleil de face dans la jungle de Rashomon, c'est très étonnant. C'est aussi un peu une façon de filmer la vérité de face. Le film Rashomon est un peu inépuisable. Il est souvent classé parmi les 50 plus grands films de l'histoire du cinéma. C'est un film qu'on étudie dans toutes les écoles de cinéma pour encore une fois son montage incroyable, la façon de représenter le corps, la façon de filmer l'espace, en l'occurrence la jungle, la façon de jouer la musique. On vient d'entendre un extrait avec une musique qui rappelle le Boléro de Ravel, bien sûr. Et puis ces trois acteurs au charisme incroyable, Toshiro Mifune, Machiko Kiyo, Masayuki Mori, qui les trois, voilà, leur vie a été changée après ce film, bien sûr.
Catherine Cadou disait qu'il y avait quelque chose à la fois très japonais et très universel dans le cinéma de Kurosawa, ce qui me rappelle à ce qu'on disait au début de cette émission sur la profondeur de la complexité, disons, de l'esprit ou de l'âme, diraient certains, humaine. Et c'est vrai qu'on pourrait voir du Shakespeare, du Dostoïevski chez Kurosawa, et d'ailleurs il les a adaptés. Il a adapté L'Idiot, Le Château de l'Araignée, on a dit que c'était son Macbeth, Les Salauds d'Homme Tempête, on a dit que c'était inspiré de Hamlet, Ran, que c'était son Roi Lear. Il y a cette profondeur de la réflexion sur l'homme dans toute l'œuvre de Kurosawa.
On a souvent dit que c'était Le Château de l'Araignée, Ran. Et Les Salauds d'Homme Tempête, on a dit que c'était des adaptations de Shakespeare. Lui-même disait tout le temps que non, qu'il avait lu Shakespeare. Bien sûr, il avait lu Shakespeare, il lisait beaucoup la littérature russe, Gorky, Dostoïevski, Tolstoï. Et tout d'un coup, tout ça a été fusionné en lui. Et ça ressortait sous forme d'une histoire japonaise. Il disait que le héros du château de l'araignée, c'était pas du tout le Macbeth, qu'il y avait un seigneur de guerre qui était. Enfin, d'ailleurs, tous les seigneurs de guerre sont un petit peu comme Macbeth, trahir le maître pour pouvoir prendre sa place. C'est une histoire très universelle. Donc c'est assez simplifié pour savoir que de dire c'est l'adaptation. Mais il est inspiré effectivement des grands maîtres de l'âme, des profondeurs de l'âme, c'est-à-dire Dostoïevski et Shakespeare, ça c'est sûr. Mais c'est pas, et chaque fois, et Ran n'est pas non plus une adaptation, il a tout à fait, il disait qu'il y avait un seigneur, c'était complètement une histoire inverse, et il s'était amusé à imaginer. C'était l'histoire d'un bon seigneur qui était très heureux, qui avait trois fils plus bons les uns que les autres, et il s'était dit, tiens, mais si c'était des fils mauvais, qu'est-ce qui se passerait? Et tout d'un coup, il y a eu l'histoire de Shakespeare qui effectivement est arrivée, mais il était parti d'une histoire japonaise, en fait. Et il partait toujours d'histoires très japonaises, et puis, paf, ça transcendait. Il disait qu'il faisait des films pour peindre des personnages qu'on aimerait rencontrer. Et effectivement, on s'aperçoit que les personnages qu'on aime rencontrer sont aussi traités par d'autres écrivains dans d'autres contextes. Et que ces on aimerait les rencontrer ou on est fasciné par la noirceur de ces personnages ou la bonté extrême de ces personnages. Et ça, c'est traité dans toutes les cultures du monde. C'est comme...
Shomon, 1951, deux ans plus tard, Pascal Alex Vincent, les sept samouraïs qui confirment Kurosawa parmi les plus grands cinéastes mondiaux. C'est un film qui a marqué, et ça, les 11 cinéastes, Catherine Cadou, que vous avez filmé dans votre documentaire sur Kurosawa, le disent bien. C'est un film qui a marqué Sergio Leone, Sam Peckinpah, George Lucas, Martin Scorsese, Francisco Ford Coppola, et bien d'autres encore. En quoi ce film a-t-il autant marqué l'histoire du cinéma, Pascal Azimansson?
Le film Les Sept Samouraïs a été la démonstration indéniable de la puissance épique du cinéma de Kurosawa, c'est-à-dire que Kurosawa est peut-être un des cinéastes qui a fait les films parmi les plus spectaculaires. Il a un grand sens du spectacle. Et ça a beaucoup impressionné dans les années 50. Et c'est vrai qu'on peut considérer que c'est un cinéaste qui a un héritage considérable, en ce sens où il a posé les jalons du cinéma d'action moderne. Et beaucoup de cinéastes, comme par exemple dit John Woo dans le documentaire de Catherine Cadou, avant de tourner un film d'action, il faut revenir aux sept samouraïs pour comprendre comment on filme l'action, comment on filme le mouvement, comment on filme la foule, comment on filme les éléments. Voilà, tout ça, Kurosawa l'a fait mieux que personne, et c'est vrai que les sept samouraïs, on revient toujours aux sept samouraïs.
Incontournable, les sept samouraïs. Catherine Cadou.
Oui, les sept samouraïs, chaque fois, il inventait une nouvelle forme de cinéma. Chaque film, c'est un cinéaste à la fois de divertissement, mais aussi un cinéaste expérimental. Chaque film, il inventait une nouvelle technique de filmer. Pascal Alex Vincent a parlé tout à l'heure dans Rashomon de filmer le cinéma, le soleil en face. C'est lui qui a demandé à Miyagawa et qui lui a dit, il faut absolument obtenir ceci. Dans Les Sept Samouraïs, il a inventé, ce qui a été repris après, enfin pas inventé, mais il a vraiment généralisé, le tournage à caméra multiple. Pour les fameuses scènes de la fin, où qui se tournaient dans un cloaque de boue infernale, il n'était pas question de prendre des plans de la caméra à gauche, un plan général à droite, on ne pouvait pas. Et il a décidé d'utiliser trois caméras simultanément, ce qui à l'époque était pratiquement assez révolutionnaire. Ça avait été utilisé autrefois, mais dans le cinéma muet, dans Intolérance, je crois, et dans d'autres. Mais là, il l'a fait pour un cinéma d'action, et c'était. Et depuis, il a continué à tourner souvent avec plusieurs caméras, ce qui donne un effet plus spectaculaire, effectivement, plus théâtral aussi, parce que. Mais alors, Kurosawa avait eu une tête. C'était un excellent monteur, c'est ce qui fait le montage. Et il savait très bien, c'est le seul, je crois, et Scorsese admirait beaucoup pour cela, il savait très bien quel plan de quelle caméra il allait utiliser au montage. C'est lui qui montait ses propres films, et il le savait, il dominait totalement la technique du cinéma, et à chaque film, il se lançait un nouveau défi. Et donc, le Sept Samouraïs, c'est effectivement une apothéose de mouvement et d'efficacité des caméras.
Mais ceux que j'ai cités tout à l'heure, parmi les réalisateurs marqués par les sept samouraïs, sont tous américains. Mais dans votre documentaire, Catherine Cadou, on ne voit pas que des Américains. On voit Bertolucci, on voit Angelopoulos, on voit Kiarostami également, marqué non pas seulement par les sept samouraïs, mais par tout le cinéma de Kurosawa. Peut-être manquent quelques Français. Comment expliquer ? Est-ce que les réalisateurs français n'ont pas été aussi inspirés par le cinéma Kurosawa ou...
Non, j'avais voulu
ça demander. Ça ne s'est pas
deux,
présenté.
Ils n'avaient pas le temps. C'était leur. Il y avait une question de timing. Enfin, je voulais demander à Odia. C'était moi qui choisissais les cinéastes et j'avais envie d'écouter la voix de cinéastes sur Kurosawa. Donc, ceux à qui je voulais demander n'étaient pas libres à ce moment-là. Et c'est seulement pour cela, c'était plus simple parce que c'était vraiment très très difficile de choisir. Il y en avait d'autres qui auraient certainement voulu répondre, mais ce qui m'intéressait c'était certains, c'est vrai, mais ils n'étaient pas libres à ce moment-là. Et par contre, Miyazaki sur Kurosawa qui parle de sept samouraïs et qui dit que c'était une histoire tout à fait d'actualité et que les samouraïs étaient les syndicalistes de l'époque. Alors Kurosawa parlait, Miyazaki est extraordinaire quand il parle des sept samouraïs, le cinéaste d'animation Miyazaki qui est complètement fasciné par les sept samouraïs. Et...
Oui, parce qu'il a aussi eu des héritiers au Japon. Pascal Alex Vincent, je suppose qu'il n'a pas eu que des héritiers dans le monde entier.
Mais peut-être que Hayao Miyazaki est peut-être un de ses héritiers les plus évidents. Ça saute aux yeux quand on regarde Princesse Mononoke, par exemple, hein, qui rappelle à bien des égards les sept samouraïs et le cinéma de Kurosawa. Et j'imagine en effet que plus d'un cinéaste japonais contemporain a appris beaucoup de choses en visionnant le cinéma de Kurosawa.
On entend là, avec ces différents extraits des bandes originales des films de Kurosawa, à quel point effectivement l'ambiance de ces films est différente. Là, c'est la musique de Dodescaden, qui fut un échec au Japon, vous nous le disiez, Catherine Cadou, tout à l'heure. Il en a été meurtri, et pourtant il a continué de tourner. Ensuite, dans les années 70 et 80, quelques très grands films, Dersu Uzala, en 75, Kagemusha, en 80, Oscar du meilleur film étranger, Palme d'or à Cannes, British Academy Film Award du meilleur réalisateur, Ran en 85, Rêve en 89. Il ne s'est quand même pas arrêté à cet échec de Dodescaden. Et on entend là, effectivement, pas seulement film d'action, film d'ambiance extrêmement différente, Catherine Cadou.
C'est un film de tendresse, comme dans Rêve, qu'il a fait à l'âge de 80 ans, qui est un film beaucoup des souvenirs de...
Dans lequel vous avez joué.
Dans lequel j'ai joué, il a créé un rôle pour moi, le rôle de la lavandière dans le cinquième épisode de Rêve. Rêve est un film composé de 8 épisodes où il raconte des rêves qu'il a effectivement faits. Et donc c'est des épisodes de 12 minutes chacun. Et dans le cinquième rêve, il y a deux épisodes qui sont de son enfance, des souvenirs de son enfance. Un épisode sur la guerre, justement la critique de la guerre, la critique de l'armée, la critique du militarisme. Un autre sur la peur d'être humain, la tempête de neige, une peur très existentielle. Et puis dans le cinquième rêve, il rencontre Van Gogh en rêve, et je suis la lavandière qui permet au jeune acteur qui joue le rôle de Kurosawa d'entrer dans l'œuvre de Van Gogh, et Van Gogh est joué par Scorsese.
Pascal Alec Vincent, vous disiez très justement qu'il avait 30 films dans ses bagages, Kurosawa. On peut en voir un certain nombre donc en ce moment. Quel serait votre préféré à vous ?
Alors, je dirais, moi j'ai beaucoup beaucoup d'affection pour La forteresse cachée, mais dans les films restaurés, il convient, je crois, de découvrir Entre le ciel et l'enfer, un polar incroyable avec une tension vraiment, voilà, un grand moment de cinéma. C'est un film de 1963.
Catherine Cadou.
Moi, c'est Rêve que j'aime beaucoup parce que je sentais Kurosawa avait 80 ans. Il a dit, c'est à 80 ans qu'on devient libre. Et là, il l'a prouvé en nous offrant un film qui était un peu la somme de tout ce qu'il avait fait. Enfin, il a fait pas mal de films somme. Mais là, il a vraiment, il a été très loin dans l'expérimentation. Il a fait aussi la première fois qu'il utilisait des effets spéciaux. Et il s'est vraiment fait plaisir et il nous a fait un grand plaisir. C'est un film joyeux, mais qui réfléchit. Ben, il parle quand même du nucléaire et il parle de tout. C'est formidable.
Et moi, j'espère qu'on reverra très bientôt Vivre, dont on entend la musique, comme Miyazaki dans votre film, Catherine Cadou. Eh bien oui, c'est mon film préféré de Kurosawa. Merci beaucoup Catherine Cadou, merci beaucoup Pascal, merci. Alex, Vincent. 9 films donc de Kurosawa au cinéma dans plusieurs villes, Amiens, Bordeaux, Toulouse, Aix, Nice, Orléans et bien d'autres. Nous mettrons toutes ces villes avec les cinémas sur notre page internet, sur notre site franceculture.fr. En DVD, on peut voir Chien enragé et L'ange ivre, mais un certain nombre suivront puisque d'octobre 2015 à avril 2017, les éditions Wildside ont choisi de rééditer un certain nombre donc des films de Kurosawa. Et puis il y a aussi une rétrospective en 23 films à Lyon, à l'Institut Louis Lumière, jusqu'au 12 avril. Dans un instant, c'est le journal et la suite de La Grande Table.